vous raconter l'histoire de l'enthousiasme, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un homme fatigué, qui en a raté des rendez-vous, qui en a manqué des occasions. Un homme que la vie a touché en plein cœur, tant et si bien qu'il entrevoit le monstre en lui. Le monstre, le mec pas fréquentable, la part minable de lui-même. Le mec qui n'y croit plus, qui voudrait juste qu'on arrête de le mater, puisque la vie s'en charge déjà très bien toute seule. Sur cet homme, le sort s'acharne. Il allume la radio et il tombe sur un gourou de la psychologie positive qui parle de carnet de gratitude et de 3 kiffs par jour. Après, il ouvre un journal, il tombe sur une méthode pour voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il voudrait qu'on le laisse tomber. Pas qu'on lui donne des trucs et astuces pour se relever en 2 temps, 3 mouvements. Il voudrait qu'on l'accepte lent. Pas qu'on le redresse pour lui apprendre la vitesse. Et puis un jour, entre 2 spots de pub pour des livres de développement personnel, il tombe sur cette chanson. Nous, nous sommes des filles et des garçons manqués. Nous, nous sommes le sol qui se dérobe sous nos pieds. La voix est nerveuse, dark, mais en même temps lumineuse. Nous sommes des cartes bleues bloquées. Nous sommes des rendez-vous ratés. C'est fou comme c'est bon. Ça lui rappelle Biolay quand il est en forme, ou Delerme quand il est en forme. C'est fou comme ça met en forme ces mecs qui ne nous demandent pas d'être en forme et qui trouvent la bonne forme pour le dire. C'est comme quand on écoute Barbara. Rien ne met plus le cœur en joie qu'une vraie chanson triste, une belle chanson triste. Parce qu'on ne se sent plus seul. Parce que ça fait du bien d'arrêter de se mentir. Parce que la joie est lucide ou n'est pas la joie. Parce que la joie est contrariée ou n'est pas la joie. Parce qu'on peut accueillir le monstre en soi au lieu de lui mettre des lunettes de winner. L'accueillir et l'honorer comme un dieu. Un monstre peut-être, mais un monstre merveilleux à qui faire une place bien au chaud au fond de soi, juste à côté du cœur. Pour en parler ce matin, du monstre qui est en chacun de nous et de la place qu'il faut lui faire, j'ai la joie de recevoir Martin Luminet, l'auteur de cette chanson qui met le cœur en joie à coups de cartes bleues bloquées et de rendez-vous ratés. Martin Luminet, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, pour nous aider à répondre à cette belle question. Pouvons-nous être magnifiques jusqu'au cœur de la loose ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Martin Luminet.
Bonjour Charles.
Vous allez bien ?
Ça va très très bien.
Alors, est-ce qu'on peut y arriver à trouver cette, à accueillir ce monstre en soi ? Donc je précise que monstre est le nom de votre premier EP, je crois.
C'est ça.
Mais là, vous avez sorti un album.
Non, c'est ça, c'est
enfin, un EP, pardon, c'est ce que j'appelle album dans mon vocabulaire. Il y a 5 titres, en gros.
Oui, voilà.
Il y a Magnifique, Cœur, Monde, Vodka, Romance et Amour. Et est-ce qu'on peut y arriver, alors?
Eh ben, j'ose espérer, et à la fois, je me dis que la question d'y arriver est peut-être secondaire, la question de faire est peut-être la toute première à embrasser, quoi. Moi, c'est vrai que j'aime bien parler d'échec, parce que je trouve que c'est le carburant de la victoire, quoi, tout simplement. Ouais. Il y a vraiment un truc où j'ai jamais éludé tout ça dans ma vie, dans mon parcours, qu'il soit sentimental, ou que ça soit mon parcours musical, ou mon parcours en tant que, quand je fais du sport et compagnie, ou amical dans mes relations. Je trouve que l'échec doit avoir une place un peu plus noble, ou du moins ne doit pas être un peu le parent pauvre de ces situations. Je trouve que l'échec est une espèce de, ouais, je sais pas, moi ça a toujours été quelque chose qui, il n'y a pas de triomphe sans défaite. On voit ça dans les grands événements sportifs, et puis on voit ça aussi dans la vie des gens, j'ai l'impression.
Vous pensez que c'est plus dur de savoir rater que de savoir réussir ?
Ça dépend des situations, mais en tout cas, le fait de rater, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est pas une fin en soi de rater. Pour moi, c'est plus une histoire de chemin. Alors, c'est soit il faut qu'on reconsidère le mot échec, soit il faut qu'on arrête de mettre la pression, ou qu'il y ait cette injonction à ne surtout pas faire de pas de côté, à sortir un peu du sentier et tout. Moi, je trouve qu'il y a un truc assez passionnant. Et je me dis, si tout le monde est dans cette situation d'échouer, c'est peut-être que notre espèce humaine, en fait, a ça en elle, c'est qu'elle peut échouer, mais elle se relève de tout. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, ce mouvement-là. Je crois que je suis vraiment passionné, non pas par la victoire, mais plutôt par le fait de se relever de quelque chose.
De toute façon, nous sommes, d'un point de vue évolutionniste, on va dire darwinien, des animaux ratés, au sens propre.
Oui.
Il y a eu un bug dans l'évolution, puisque quand on s'est relevé, au fond, ça a permis au cerveau de se développer, au larynx de prendre sa place et à la parole d'émerger, mais ça a aussi précipité la naissance. Et du coup, on arrive sur Terre trop tôt. Alors les femmes sont pleines barres, parce que c'est 9 mois de grossesse au lieu de 17 à 18 mois, mais il faudrait 18 mois pour que les cellules du fœtus soient terminées. Et on arrive trop tôt, donc on doit tout apprendre, on doit se planter. Je vous rappelle qu'on échoue en moyenne 2000 fois avant de réussir à marcher, alors que le petit poulain, lui, il arrive tranquille du premier coup au bout d'une heure. Donc nous sommes des animaux ratés, et c'est peut-être là notre beauté.
Bah oui, j'en suis persuadé. Moi, j'ai vu ça, je vois ça dans beaucoup de gestes. J'ai un grand-père qui était chocolatier, et je le voyais raté 100 fois pour réussir la 101e fois. Et en fait, cette 101e fois venait adouber les 100 fois précédentes. Et puis, et je trouve ça très beau, en fait, de se dire que, tiens, pour réussir un beau geste, que ça soit en musique, que ça soit en sport, que ça soit au cinéma, que ça soit en danse, il y a toujours un moment où on est dans cette espèce de recherche de rater en beauté, quoi.
Écoute ton cœur, tout le monde disait, mais comment fait-on quand ton cœur est un faux cul, un faux jeton, un faux frère, un vrai con qui change jamais de position, un foutu, un vendu, une vermine, une sale peste qui aime tout ce que moi je déteste, un traître, un faux maladroit, un mélange entre un sourire et un connard bien droit, un petit cœur terroriste, j'ai peur qu'il se fasse péter en moi. Mon cœur est pâle, mon cœur est sale, mon cœur est un crevard qui se souvient plus avec qui il est rentré hier soir. Mon cœur est écœurant, je sens frapper sous ma peau. Et crois-moi, c'est douloureux quand ton propre cœur te tourne le dos. Écoute ton cœur, tout le monde disait. Écoute ton cœur, tout le monde disait. Mais moi, mon cœur m'écoute plus. Après tout ce qu'on a vécu.
Alors, on a écouté une de vos chansons, Cœur. Alors ça, au moins, c'est pas raté. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça hyper réussi. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai adoré dès que j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Je voudrais qu'on s'arrête sur ces paroles. Mon cœur est un enfant gâté. Bref, t'as compris, un enfant raté. Mon cœur est cette course-poursuite qui finira dans un platane. Mon cœur est cette fille qui se jette sur les rails. Mon cœur est une sortie de boîte. Merde, j'ai trop peur au fond que mon cœur soit un truc de droite. Mon cœur est un bras d'honneur. Il s'est même permis un jour de faire du mal à ma sœur. Je trouve ça très bien écrit. Je trouve qu'il y a une vraie énergie. C'est ça l'enthousiasme dont je parlais au début. Je trouve que ça nous enthousiasme, cette lucidité par rapport à l'endroit où le bas blesse aussi, plutôt que le déni, plutôt que voilà. Je trouve que c'est la lucidité qui met la pêche comme ça. Mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé quand vous dites « Mon cœur n'écoute plus après tout ce qu'il a vécu ».
Bah, cette chanson, bon, je vais vite, c'est pas une chanson qui parle de mon meilleur pote, hein, c'est vraiment des chansons qui parlent de choses vécues. Et c'est vrai que cette chanson, elle est arrivée à un moment où je me voyais faire, j'essayais de tomber amoureux de quelqu'un et je me voyais faire des choses qui me ressemblaient pas. Et je me demandais si c'était mon cœur qui me menait pas un peu par le bout du nez et qui me faisait faire un peu tout le contraire de mes valeurs ou tout le contraire de ce que j'attendais de moi ou ce que je pensais dont j'étais capable. Et en fait, la vérité se trouve où ? Est-ce que c'est tout ce qu'on construit en mettant une petite caméra sur soi en se disant tiens, je pense que je suis ça ? Ou est-ce que c'est l'instinct qui nous rattrape dans ces moments-là, ces moments de faiblesse ? Où est la vérité entre les deux ? Est-ce que c'est le but qu'on essaie d'atteindre ? Ou est-ce que c'est le truc qui vient nous rattraper ? J'ai pas encore la réponse, mais en tout cas, c'est vrai que ce cœur-là est un vrai organe de... C'est un chien fou chez moi, c'est vraiment un chien fou. C'est un organe de trahison et à la fois l'organe dont j'ai le plus confiance parce que c'est l'instinct pour moi qui prône surtout. Mais en tout cas, c'est
sauf que là, cet instinct, il vous joue des tours.
Oh, oui, il m'a joué des tours, il m'a joué beaucoup de tours.
C'est un instinct pas très sûr.
Ouais, c'est clair que pas très fiable. J'en tirerai pas un bon prix alors qu'il est. Mais en tout cas, j'ai vécu des grandes choses grâce à ce cœur-là.
Donc, mais vous savez, quand vous disiez tout à l'heure, y a un truc propre à l'humain dans le ratage. C'est aussi pour ça qu'on a un instinct pas fiable. Parce que pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, si on était né à point, ben on aurait un instinct solide, on pourrait s'y fier. Mmh. Et donc cette chanson, elle est troublante parce que d'habitude, les gens se perdent par rapport à leur raisonnement, leurs valeurs, leurs idéaux, mais ils écoutent leur cœur. Là, c'est un peu le contraire.
Ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai que moi, je suis branché là-dessus, quoi. J'ai l'impression de pas être très intelligent dans la vie, mais d'avoir une espèce d'intelligence émotionnelle où j'arrive un peu à me faire confiance, à trouver que c'est quelque chose qui fait du bien autour de moi et qui me fait beaucoup de bien par retomber. Enfin, du coup, ça me touche de voir qu'on peut être touché, qu'on peut connecter à l'âme directement des gens, parce que moi, c'est par là qu'on peut m'aborder et c'est par là que j'existe vraiment.
Oui, et c'est ça qui m'a touché dans vos chansons. C'est qu'en fait, il y a une forte confiance dans le doute.
Ah ouais, complètement. Ah ouais, non, mais je suis un très grand supporter du doute. Je prône, j'aimerais qu'on ouvre des grandes écoles de doute, qu'on fasse des choses comme ça, des espèces de formations pour apprendre à un peu se casser la gueule, parce que à éviter tous les risques, on finit par, dans les situations d'urgence, donc dans les situations vraiment très instinctives ou qui disent quelque chose de très vrai sur ce qu'on est, eh ben on n'aura jamais les réponses sur ce qu'on est profondément. Donc je pense qu'il faut il faut apprendre un petit peu à aller tester nos limites, qu'elles soient je sais pas, sentimentale, qu'elle soit même sexuelle, sociale, des choses comme ça, pour pouvoir se dire, bah en fait, une fois que j'ai déconstruit tout ça, qu'est-ce qui reste de moi, qu'est-ce qui reste de notre société, qu'est-ce qui reste de notre passage sur Terre, quelque part.
Mais il y a aussi quelque chose d'affirmatif dans votre façon de chanter. C'est aussi ça que je voulais dire quand j'entendais confiance dans le doute, c'est que vous ne chantez pas en pleurnichant, vous chantez avec force. Voilà. Et un peu comme ça m'a fait un peu penser à Fauve, je sais pas si ça vous parle.
Ouais, moi le spoken comme ça, un peu rugissant, ça me va très bien.
Tous les jours, je fais l'acteur, je fais semblant. Je maquille la peur en plaisantant, je perds mon temps à me poser des questions au lieu d'agir. J'ai peur de la dépression, j'ai peur de l'avenir et ses déceptions. Plus je grandis, plus le temps passe et plus je suis déçu. Sous l'emprise de l'angoisse des futures blessures. Plus je me cherche des excuses, plus je m'enlise, je m'enivre de négativité et je me sens vivre. Souvent, j'ai peur de l'ennui, j'ai peur d'avoir aucune raison de me plaindre. Pourtant, je me sens triste tout le temps, je me sens vide. J'ai peur d'être normal, d'être moyen, ni trop mal, ni trop bien. Je crois que je sers à rien. J'ai peur de mes proches parce qu'ils connaissent mes faiblesses.
Ah voilà, Aurel San, peur de l'échec. Vous aimez bien Aurel San ?
Ouais, surtout ce morceau. Ouais, j'aime vraiment ce morceau parce que ça fait partie de ces morceaux qui nous permettent, moi qui m'ont sans doute permis un peu de m'autoriser à parler de ça, quoi. Ouais. À parler de notre vulnérabilité de manière très impudique.
Et pas tant que ça, ça reste assez pudique.
Oui, moi j'ai l'impression à mon niveau que ça reste très impudique parce que c'est des choses que j'arrive pas à dire aux personnes concernées. Ce que je
notamment
dis
à votre sœur.
Notamment à ma sœur.
Qu'est-ce qui s'est passé avec votre sœur ?
Oh non, c'est comme tout, quand on a des personnes auxquelles on tient énormément sur Terre, la moindre petite égratignure ressemble à une espèce de grande fracture, enfin à mes yeux. Donc c'est vrai qu'il y a des gens comme ça que j'espère ne jamais décevoir.
Je comprends. Alors attention, le moment est venu de mettre les points sur les i. Voilà, beaucoup de loose, beaucoup de doutes. Mais en même temps, vous avez quand même réussi beaucoup de choses. Là, vous venez de faire l'ouverture des Francopholies. C'est pas rien d'ouvrir les Francopholies. Vous avez fait Sciences Po, vous avez aussi fait le conservatoire, vous avez fait une école de cinéma à Lyon, je crois.
Ouais, un petit peu. Mais c'est toutes les études là que vous citez, c'est tous des trucs que j'ai plutôt arrêté au bout d'un moment.
Ah oui,
j'ai plutôt échoué. Mais je suis allé prendre ce que j'avais à prendre dedans, mais c'était super.
Vous êtes quand même entré à Sciences Po.
Oui, je suis rentré et je suis sorti aussi.
Ah oui, donc ça, voilà. Oui. Et donc, à un moment, il y a une décision, c'est ça. Vous êtes dit, c'est pas pour moi. Je vais écouter mon truc. Je vais y aller parce que vous y êtes allé un peu tard, je crois.
Ouais.
Malgré tout.
Ouais. Bah ça c'est aussi un vrai truc aussi de sortir ses premières chansons quand on a autour de 30 ans, c'est vrai que c'est pas très commun, et à la fois moi je trouve que ça raconte un vrai truc. C'est encore une fois dans cette histoire d'éloge de l'échec, de tout ça, j'étais très heureux moi de naviguer à vue, que tout le monde voit comment j'évoluais, de tout le monde voit comment je doute. Je trouve que ça raconte, vu que ce sont des chansons qui sont braquées sur ma vie, je vois pas pourquoi je mentirais dans ma façon de faire des chansons aussi.
Bien sûr.
Et donc oui, toutes ces études et tous ces cheminements avant d'arriver dans l'axe de la musique, ça a été... la musique, c'était plutôt une sortie de route, mais c'est vrai que je me suis pas dit, tiens, je choisis d'être chanteur au bout d'un moment, quand des fois la vie vous envoie un signal en vous disant, il y a ça qui pourrait peut-être te sauver un petit peu. Moi, pour moi, c'était la musique, je l'ai saisi peut-être un peu tard, mais mieux vaut trop tard que jamais, j'ai l'impression.
J'ai passé toute ma vie avec un balai dans le cœur. Pourquoi tu persistes à voir le beau à l'intérieur? Chanson que je ferais pas, je dirais haut et fort que cette putain de vie passera pas sur le corps. Que c'est comme ça, que c'est comme ça que j'ai tout appris. La solitude comme animal de compagnie. Génération assassinée par des diplômes d'abrutis. Je me demande plus si je vais y arriver, mais plutôt à quel prix. Et tu crois que la musique a sauvé ma vie? Mais la musique c'est pas le remède, non. La musique c'est ma maladie.
Alors on commence à familiariser un peu avec votre écriture, c'est aussi ça le but de l'émission. J'ai l'impression que la meilleure façon de vous rencontrer, c'est qu'on écoute le plus de vos chansons et cette très belle écriture, mais quand même quelque chose me surprend. La musique c'est pas le remède, c'est ma maladie, c'est-à-dire...
Je sais pas, moi j'ai ce rapport tellement intense à la musique, du moment où la musique est entrée dans ma vie, je devais avoir 20 ans, et la musique est entrée dans ma vie avec tout son bagage d'émotions, parce que je venais d'une famille où pour le coup les émotions n'avaient pas tellement leur place dans les décisions ou dans les façons d'avoir des rapports entre les humains. C'était soit de la pudeur, soit quelque chose où on se protégeait sans doute de ça, mais en tout cas moi j'ai connu mes premières
émotions. Une famille bourgeoise, lyonnaise ?
Non, pas tellement, c'était plutôt une famille lyonnaise qui habitait en marge un petit peu de tout et qui je pense, voilà, avait
une chocolaterie quand même, c'est plutôt.
Ouais, alors, c'était mes grands-parents.
Oui,
ça.
D'accord.
Ouais, mais mes parents avaient plutôt une vie plutôt traditionnelle, avec ils avaient chacun un petit diplôme et avaient fait leur vie dans des bureaux. Et c'est vrai que bah quand on se pose pas tellement de questions, moi j'ai vu faire ça, donc je me suis dit bon c'est peut-être ce qui m'attend et tant mieux. Hein, c'est sans doute qu'on me voulait beaucoup de bien à travers ça. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert les émotions, il y a eu un truc qui m'a rattrapé et puis mon rapport à la musique du coup est devenu passionnel, et comme dans toute relation passionnelle, il y a une part d'obsession aussi qui rentre là-dedans. Donc c'est pour ça aussi que des fois je pense que la musique est ma maladie, parce que elle me prend du temps, elle me fait un peu souffrir, elle me fait douter, elle me renvoie à des choses qui bloquent en moi encore. Mais c'est un rapport passionnel. Je crois que j'aime beaucoup aussi ça dans la vie. Je suis fait de ça et j'ai arrêté de vouloir vivre des choses tièdes.
Vous voulez dire que on pourrait aller jusqu'à parler d'hypersensibilité ?
Je crois qu'on peut oser le dire. Ouais.
On a reçu à ce micro Fabrice Midal, un philosophe qui a écrit un livre là-dessus récemment, qui parle de l'hypersensibilité comme un talent et non pas comme d'une maladie. Vous êtes d'accord avec lui ?
Je le remercie, ouais, je trouve ça très juste. Je trouve que la vulnérabilité, c'est tellement un truc répandu, c'est tellement un truc qui nous relie plus que nos victoires, qu'il faudrait plutôt faire l'éloge de tout ce qui nous fragilise, au fond, pour qu'on sente qu'on est pas si
différent. Oui, d'ailleurs, il y a une de vos chansons, vous dites ça très joliment, attendez, je la retrouve. On a essayé de mettre en commun nos forces, le moment est peut-être venu de mettre en commun nos faiblesses, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Je cite de tête.
Unir nos forces. Oui, on nous a demandé d'unir nos forces, mais il faudrait peut-être unir nos faiblesses. Ouais, je le pense vraiment. Je pense vraiment, en fait, quand on passe une soirée, faites l'expérience, quoi. Passez une soirée et racontez chacun votre tour tout ce que vous avez réussi dans la vie. Et puis, faites la même soirée avec les mêmes personnes et dites chacun votre tour ce que vous avez raté. Je pense qu'il y aura un moment, une soirée beaucoup plus mémorable dans ce qu'on se sera avoué de ce qu'on a raté, de ce qu'on réussit pas, de là où on doute, des endroits où on a besoin des autres, des endroits où on se rend compte qu'on a besoin encore de progresser. Moi, j'en suis persuadé que ça peut nous sauver, quoi.
Et pourtant, quand on se présente dans la vie, on commence par le storytelling de ses succès en général.
Bah ouais, évidemment. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait donner envie aussi d'écrire des chansons où je m'épargnais pas, et puis aussi de d'être lucide avec ça, quoi. Je trouve ça. Je sais pas, je pense pas que quelqu'un soit parfait ici sur Terre, ou je serais très malheureux pour cette personne, parce que à mon avis, il passerait à côté de plein de choses. Si on veut voir le monde que du bon côté, je pense que c'est comme vivre avec un œil crevé, quoi. C'est, on va droit dans le mur, on passe à côté d'émotions fortes qui sont, je me dis qu'il y a des mauvais moments qui sont bons à vivre. On le sait tous, c'est des choses qui nous construisent, même si c'est des petits bouts de ruines, c'est des choses qui nous construisent, et moi, je regrette aucun de ces mauvais moments que j'ai pu traverser, et je pense que c'est en les convertissant en quelque chose de beau, que ça soit des chansons, et puis tout le monde après les convertit en amitié ou en force de vie, et ben c'est aussi là-dedans qu'on va créer une espèce de grande solidarité, et puis de se dire, ben voilà, en fait, ma vie aura été une succession de grandes aventures et pas tellement d'échecs ou de réussites. Ce sera des aventures, quoi.
De toute façon, dans la vraie vie, souvent, ça s'est mélangé. Hein. On n'arrive pas à savoir si c'est un échec ou un succès. Parfois, on a un succès en se comportant mal, alors c'est un mélange.
Ouais,
parfois, on a un échec en comprenant plein de choses. Alors, vous avez parlé du monde et de voir le monde. Et ben justement, on va écouter votre chanson « Monde », Martin Luminet.
D'abord, il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre. Puis il y a eu les hommes. Beaucoup d'hommes. Que des hommes. Pour bien faire tenir tout ça, on a mis des murs. Dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer. Fallait pas qu'on s'inquiète. On avançait, sans progresser certes. On faisait croire, on avançait. Mais c'est comme tout. Pendant une chute, on croit toujours voler. Si c'est la fin de ce monde, ok. Si c'est la fin de ce genre humain sans humanité, ok. Si c'est la fin de l'autodestruction, ok. On nous a trop demandé d'unir nos forces. On pourrait unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses.
Allez, allez, reste, allez, reste, allez, reste, on est fort. C'est pas demain. De la sagesse, nous sommes la preuve du contraire. Les coups de pied dans la portière, nous sommes la réussite par l'échec, nous. Des mauvaises filles, des
mauvais mecs, nous. Nous sommes des attardés du cœur, quelques balles dans le corps. Des présumés capables, des héros un peu sales. On dégenre, on dérange, on dérange, on dérange, tu dégages, nous. Nous on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit. Nous sommes des cartes bleues bloquées. Nous sommes des rendez-vous ratés. De la belle histoire, nous sommes plutôt bien élevés. Nous sommes une sexualité accidentée. Nous sommes un joli film d'erreur. Un joli film d'erreur. Une arme blanche à la place du cœur.
Allez, reste, allez, reste, allez, reste, allez, reste, on est fort. C'est pas demain avec, c'est plus tard, mais nous ferons la mort.
C'était Martin Luminet et cet excellent morceau « Monde » présent sur votre EP qui vient de sortir, enfin qui est sorti cet été, « Monstre ». Alors Martin Luminet, on a encore entendu ce sens des paroles. Racontez-nous un peu cette ouverture des francophilistes que vous avez faite cet été. On en parlait tout à l'heure. Non seulement c'était le début du festival, et en plus c'était la reprise des festivals. Double émotion, je crois.
Ah ouais, c'était... C'est quelque chose d'assez intense parce que je suis accompagné par le Chantier des Franco, qui est un dispositif qui accompagne des artistes émergents à l'année. Donc ils accompagnent une dizaine d'artistes par an. Et moi j'ai été drafté dans la promo 2020. Mmh. Et le Covid a débarqué. Les Franco et le Chantier des Franco ont décidé de reconduire cette promotion en disant on ne veut absolument pas qu'il y ait de générations de chanteurs et de chanteuses sacrifiées à cause du Covid, à cause du fait que les salles soient fermées, que les sorties de chansons soient repoussées. Enfin, c'était hors de question pour eux. Donc ils ont multiplié les moyens, multiplié les moyens humains, les moyens, les attentions, enfin pour vraiment qu'aucun des artistes dont ils étaient responsables ne mette le genou à terre. Et ça a été quelque chose de très très fort. Et au bout de ces deux ans, on a cette programmation donc au festival des Francophonies de La Rochelle, qui est quand même assez, assez magnifique. Et moi, je faisais le concert d'ouverture, donc c'était. Je vais essayer de le décrire parce que, mais c'est encore un peu chaud parce que c'était vraiment très émouvant. En fait, on est rentré dans la salle à la fin du premier morceau. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se jouait, qui n'était pas que la responsabilité de mes chansons. C'était aussi on se réunit enfin avec du public.
Ouais.
Je sentais que le public avait les crocs autant que nous, qu'il y avait quelque chose qui se faisait dans le fait de tiens, on veut se retrouver, on est en train de célébrer en fait le moment de on refait un concert, on refait des festivals, on peut enfin ouvrir cette fenêtre d'émotions fortes qui était cadenassée depuis plus d'un an et demi, parce que même si c'est un confinement, même si on est en pyjama dans des canapés tout mous, on a été traversé par une espèce d'émotion très violente pour tout le monde. C'est juste que c'était une petite prison un peu molletonnée quoi pour chacun, mais du coup qu'est-ce qu'on fait de ces émotions-là si on n'a pas la fenêtre, si on n'a pas une salle de spectacle, si on n'a pas les salles de cinéma ou même les salles de sport qui sont ouvertes pour pouvoir vider.
Se rencontrer aussi.
Exactement. Oui, ouais, changer de.
Mais d'ailleurs, toutes ces paroles, ces chansons ont été écrites avant ou pendant le confinement?
Eh ben, il y a deux chansons qui ont été écrites avant et la plupart sont pendant le confinement. En fait, moi, ce confinement, malgré tout ce qu'il m'a enlevé de précieux, m'a permis de regarder le monde s'arrêter. Et ça, ça a été un spectacle terrifiant, mais qui a suscité chez moi une espèce de grand réveil de devoir écrire là-dessus. Enfin, ça m'a vraiment, moi, ça a acté le fait d'écrire et de vouloir ancrer un disque dans cette époque-là, vraiment.
Arrêtons-nous justement sur quelques paroles de cette chanson qu'on vient d'écouter. Monde, nous sommes plaisir d'offrir, joie de décevoir. Nous sommes la face cachée de la belle histoire. Nous sommes plutôt bien élevés. Nous sommes une sexualité accidentée. Nous sommes un joli film d'erreur. Un joli film d'erreur. Une arme blanche à la place du cœur. Et juste avant, vous disiez, nous sommes la réussite par l'échec. Alors, comment vous écrivez? Par exemple, ça, vous l'avez écrit comment? C'est d'abord la musique qui porte et qui appelle les mots, ou d'abord vous faites un poème presque et après vous le mettez en musique?
Alors, Avant, j'avais tendance à écrire d'abord le texte parce que j'étais très cérébral dans ma façon d'écrire et que je montais sur scène un peu en tant qu'auteur. Et puis, justement, l'accompagnement, le fait de travailler avec les Franco sur scène, ce qui nous ont beaucoup accompagnés aussi en parallèle, je le précise encore une fois, moi, m'a permis de réintégrer aussi beaucoup d'émotions dans mon corps. Donc aujourd'hui, j'écris en même temps que je compose la musique.
Il faut tout en même temps.
Ouais, il y a une espèce de tout parce qu'il faut que j'ai. En fait, pour moi, l'émotion, elle est totale si je sens une implication de mon corps. C'est tout bête. Enfin, c'est ma façon.
Non, c'est pas du tout bête.
Mais en tout cas, c'est ça. Il faut que mon corps soit impliqué là-dedans.
Ça s'appelle la présence, en fait.
Ouais, sans doute. Ouais. Et exactement. Et ce mot-là, de présence, je commence à le chérir beaucoup parce que pour moi, c'est un vrai chemin de vérité de trouver la présence, de trouver l'ancrage, de trouver le fait d'être quelque part pleinement, quoi, et de pas être déconcentré ni par son portable, ni par des pensées un peu parasites. C'est vrai que cette question de présence, moi, a été une vraie réponse à tout ce qu'on venait de traverser et peut-être qu'on peut déconstruire du monde dans lequel il se dirigeait. Et maintenant que le Covid a un petit peu rebattu les cartes, est-ce qu'on peut pas un petit peu se mettre dans une position, justement, d'être dans un ultra présent, quoi, et de se dire, en effet, là, on vient de prendre une leçon on vient de nous couper 2 ans dans nos vies. Eh ben, comment on fait pour chérir le présent, quoi, et
bien
puis
sûr.
Justement, qui va permettre d'avoir un futur un peu plus tolérable.
Nous, des mauvaises filles, des mauvais mecs, nous sommes des attardés du cœur, quelques balles dans le corps, des présumés capables, des héros un peu sales, on dégenre, on dérange, on te dérange, tu dégages, nous on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit, nous sommes des cartes bleues bloquées, nous sommes des rendez-vous ratés, c'est venu facilement, ou alors vous avez galéré longtemps ?
À écrire ça ?
Ouais, parce que c'est très beau.
Merci.
C'est très bien écrit.
Bah, c'est vraiment des trucs que je vis, quoi. C'est vrai que c'est la première chanson où je dis nous, mais c'est peut-être la chanson la plus intime et c'est peut-être la chanson la plus importante pour moi dans ce disque parce que justement, elle venait un peu parfaire le geste de, on écrit une chanson sur soi d'une manière très très intime et en fait, on essaie de voir si quelqu'un répond au bout du fil, quoi.
L'amour, on nous l'a mal appris. L'amour, on nous l'a mal appris. L'amour on nous l'a mal appris. L'amour on nous l'a mal appris.
Qu'on soit français, mexicain, anglais, d'ici, de là-bas, de gauche, de droite, qu'on porte des costards ou des pantacours, qu'on ait tout gagné, qu'on ait tout perdu, que l'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Qu'est-ce que cette époque vient nous raconter sur l'amour?
Alors, dans cette chanson-là, Amour, comme dans la chanson Monde, on passe du jeu au nous, voilà, à quelque chose de générationnel. Vous n'êtes plus simplement un cœur énervé ou déçu ou ouvert à sa tendresse, à sa vulnérabilité. Vous parlez d'une génération, voilà. L'amour, on nous l'a mal appris. Donc ça, c'est intéressant. Vous pensez que de cette génération-là, donc vous avez à peu près 30 ans, on vous a pas appris à aimer ?
Tout comme on nous a pas appris à se mettre en colère, tout comme on nous a pas appris à travailler, à trouver une passion plutôt qu'un métier. Je pense que c'est un tout. Je pense qu'il faut réinterroger tout, faut déconstruire tout. Moi, c'est vrai que j'avais sous les yeux un format de couple qui me faisait où j'avais plus de doutes que de certitudes en voyant ça. Je me disais pourquoi on doit se promettre de jamais se quitter pour susciter l'amour. Pourquoi est-ce qu'en fait aimer, ça ne serait pas plutôt de dire tiens, en fait tous les jours la porte est ouverte dans les deux sens. Pour partir ou pour rester, et puis se choisir un peu tous les jours, de se dire en fait, tu vois, on est resté là parce qu'on s'est choisi, parce qu'aujourd'hui tu me plais encore, et puis, ouais, je sais pas, il y a un espèce de truc où je trouve que l'amour est un truc tellement pur que on y a mis beaucoup de choses dessus, on y a mis le couple, on y a mis le mariage, on y a mis enfin, beaucoup de choses qui pour moi gâchent un petit peu tout ça, alors que c'est pour moi l'aventure humaine la plus universelle, quoi. Dans 100 ans on tombera amoureux, il y a 100 ans on tombait déjà amoureux. De n'importe quel milieu, de n'importe quel pays, tout le monde tombe amoureux, les dictateurs tombent amoureux, les sales types tombent amoureux, tout le monde tombe amoureux. Je pense que c'est peut-être le truc qui nous relie le plus en tant qu'espèce. Et je trouve qu'on s'est un peu, on a un peu piétiné l'amour sur certains sujets.
Alors, vous pensez peut-être que pour mieux aimer, il faudrait avoir moins d'idées de l'amour, au fond. Moins d'idéal, presque.
Ouais,
retrouver juste la présence, le réel.
Sans doute, ouais, savoir ce qui nous fait du bien, parce que c'est vrai que la chance qu'on a dans cette génération dont je fais partie, c'est qu'on est en train de réinterroger beaucoup de choses, quoi,
la
sexualité, le genre, tout ça, et ça c'est une grande chance. Et on est en train de se rendre compte, bah tiens, qu'il y avait des concepts qui ne tenaient pas vraiment la route, mais qui étaient beaucoup plus simples. En fait, ça servait aussi un peu à ne pas se poser trop de questions et qu'il fallait être tranquille sur certains sujets. Or, je pense que l'amour est quelque chose d'intranquille au possible.
Oui, alors vous, j'ai pas eu le temps de préciser que vous êtes auteur, compositeur, interprète. C'est d'ailleurs, selon moi, quelque chose qui... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je pense, moi, que vous allez cartonner. Enfin, je trouve ça hyper fort. Vous êtes aussi le réalisateur de vos clips. Oui. Ce qui nous surprend pas quand on pense que vous avez fait cette école de cinéma. Et dans vos clips, je crois que c'est le clip magnifique, ou alors le clip monde, je sais plus, il y a plein d'images de films, de scènes de films qui défilent en alternance avec vous en train de fumer une cigarette dans une voiture. C'est un très très joli clip.
Merci.
Et je vous ai préparé un petit cadeau, puisque je sais que vous aimez le cinéma. Alors c'est un extrait du livre La beauté du ciel de Sarah Biasini, qui est la fille de Romy Schneider. Et dans le passage suivant, elle décrit de mémoire le début d'un film de Claude Sautet qui, je crois, vous intéresse. Dans Les choses de la vie de Claude Sautet, évidemment, la scène de la machine à écrire. Ma mère joue le personnage d'Hélène, traductrice ou interprète dans le film Je ne sais plus. Il fait chaud. Hélène a juste une serviette de bain nouée sur la poitrine. Elle est assise, on voit ses épaules, sa peau dorée, ses yeux derrière des lunettes de vue à grosse monture en écaille. Elle tape à la machine, s'arrête, s'énerve sur un mot allemand qu'elle ne sait comment traduire en français. Comment dit-on en français pour dire mentir ? Enfin, non pas mentir, mais raconter des histoires. Elle se retourne. Michel Piccoli, le magnifique, est posté derrière elle. Il la regarde taper sur cette machine. Il fume en la regardant. Tout le monde se souvient de cette scène. Qu'est-ce que tu fais ? Je te regarde. Il se touche les lèvres avec son pouce. La fumée de sa cigarette lui fait plisser les yeux. Je le jure, j'écris tout ça de mémoire. Que les puristes me pardonnent s'il y a des erreurs. La caméra nous donne ensuite le point de vue de Piccoli, la nuque d'Hélène, ses cheveux relevés en chignon. Claude Sautet nous montre à nouveau le visage de Piccoli, la regardant, avec désir et ce qui passe pour du détachement chez cet acteur. En fait, non, dans le film, il va quitter Hélène, et dans cette scène, il le sait déjà. Affabulé, ah c'est ça, affabulé, avec deux F. Ah, et je ne sais quel juron en allemand. Michel Piccoli est mort l'année dernière. Je regarde avec passion un documentaire diffusé à cette triste occasion qui lui est consacré. Tout d'un coup, sur les images de Max et les ferrailleurs et les choses de la vie, il parle de ma mère. Je vous rappelle que c'est Sarah Biasini qui écrit. Ce sont toujours ses mots, c'est toujours sa voix. Et ce sont parmi les plus belles choses que j'ai entendues sur ma mère. Je ne pouvais pas ne pas les reprendre ici, pour elle et pour lui. Deux points, ouvrez les guillemets. Romy Schneider était vraie, plus vraie que ses rôles parfois. Par le mystère du talent, mais aussi par l'obstination à ne jamais mentir, à ne jamais tricher. Une star est un mirage. Elle est une star, mais un jour, ayant connu des tours de valse, des coups de cœur, des bonheurs lumineux comme son sourire, des rencontres fulgurantes et des chagrins insupportables, un jour, Romy cessa d'être un mirage pour devenir un miroir, celui où se reflètent les joies et les peines du plus grand nombre, mieux qu'une star. Quand elle dit comme ça qu'elle était vraie, c'est-à-dire... ne jamais mentir, ne jamais tricher. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous guider ?
Ah oui, c'est le guide ultime. Ouais, on peut pas. Enfin, je veux dire, ma place, elle est de raconter mon histoire de façon la plus intime. Je n'ai aucun intérêt à tricher parce que si je triche, la rencontre n'existe pas. Si je vais chercher les personnes en leur servant ce qu'ils ont envie d'entendre, je ne vais pas les rencontrer, ils ne vont pas me rencontrer moi. Or, l'enjeu pour moi de faire des chansons, c'est. Si je caricature, c'est de me sentir moins seul face à la façon dont je me prends l'époque de plein fouet, dont je traverse cette époque, quoi. Donc, oui, c'est interdit de mentir là-dedans.
Et le mentir vrai, vous voyez, c'est ce qu'on disait d'Aragon. C'est Aragon qui disait la littérature, c'est le mentir vrai. On peut pas un peu arranger, un peu mettre en scène, un peu modaliser.
Pour vous cacher, moi, mes toutes premières chansons, j'ai pratiqué ça au tout début, avant d'écrire cette EP. C'est que mes premières chansons, je me disais, tiens, j'ai raté pas mal de trucs de point de vue amoureux, de point de vue amicaux, de point de vue familiaux. Je vais écrire des chansons pour un petit peu venger le réel ou je sais pas, essayer de réparer la peine. Et à travers ça, je me donnais un petit peu le bon rôle ou du moins j'essayais de réécrire le film, quoi, de tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était une malhonnêteté de faire ça, même si ça faisait des chansons très très douces et avec beaucoup d'optimisme et compagnie. Mais j'étais très gêné à l'idée de faire ça parce que pour moi, ces chansons, pour ma part, hein, intimement, si je les fais, c'est simplement pour pouvoir dire ce que j'arrive pas à dire dans la vraie vie, quoi. Et j'ai envie de le dire comme je devrais le dire. J'essaie pas de le dire si je pouvais le dire mieux, quoi. J'essaie de le dire simplement, de l'émettre. Pour moi, c'est juste ça d'écrire. Donc, Ouais, j'ai expérimenté ça, de mentir pour dire vrai, et c'est pas ma came encore. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, peut-être que je serai un peu plus détaché. Là, je crois qu'il y a une espèce d'urgence pour moi de vouloir exister pleinement, et d'aller sonder au fond de moi les choses les plus existentielles, quoi, pour voir si ça répond en face, si quelques-uns d'autres vivent ça aussi, et ça me rassurait beaucoup, ouais.
Finalement, vous avez quand même pris du temps, vous avez fait différentes études, différentes écoles, commencées, finies, interrompues, peu importe. Mm-hmm. Vous parlez beaucoup de cette lenteur qui a été la vôtre, enfin, toute chose, toute proportion gardée, ça va. Mais en même temps, c'était peut-être le temps qu'il fallait pour que l'urgence devienne indiscutable.
Ouais, complètement. Ouais, moi, pour moi, le temps lent est quelque chose déjà qui est pas très répandu dans la musique. C'est vrai qu'on essaye un peu de faire un petit storytelling d'un ou une artiste en disant, ah, tiens, c'est cette toute première chanson, il a commencé la musique la semaine dernière, regarde, on lui a fait un clip à 20 000 balles, tout va bien. Non, je pense que je fais pas de la musique pour essayer d'enfumer qui que ce soit ou une certaine forme de liberté, et je respecte ceux qui le font comme ça, hein. C'est juste que c'est pas ma voix. En tout cas, je trouve que le temps lent est très important parce que ça laisse l'opportunité aussi d'essayer, quoi, de pas trop, enfin, par exemple, moi, ça me fait penser de devoir choisir un métier quand on a 20 ans, quoi. On va devoir trouver un diplôme pour les 40 prochaines années. Alors, je suis incapable de savoir ce que je ferai, moi, dans 10 ans, dans 15 ans, ni même dans 2 ans. C'est pas ce qui peut nous arriver. Il peut nous arriver une tuile énorme, il peut nous arriver une espèce de révélation sur quelque chose. Et je trouve que de ne pas laisser la petite issue de secours ou la petite issue à la reconversion, crée des grands malheurs. Et puis, c'est pas anodin si on est une génération où les burn-out fleurissent. C'est une nouvelle maladie, mais c'est une maladie qui vient aussi, qui accompagne cette espèce de schéma, de diplôme où on ne s'en sort pas trop, et que des gens qui se reconvertissent aujourd'hui, on a l'impression qu'ils s'arrachent un organe vital. Or, ça devrait être tout naturel de se dire, tiens, on évolue, et ben, notre sensibilité ou notre attention se porte plutôt sur ceci maintenant, et ben voilà, on va cheminer vers ça, quoi.
Une vie à rebondir, une vie à bifurquer, une vie à devenir. On va écouter London Grammar, Lose Your Head.
I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby.
Yeah.
London Grammar, Lose Your Head.
Sous le soleil de Platon.
Le gars arrive pour draguer la meuf.
Ouais.
Et il lui dit, ton père est un voleur.
Oh putain, la vieille technique, ça marche jamais ce truc-là.
On est d'accord, c'est naze.
Ouais. Sauf si c'est la fille de Bernard Tapie, quoi.
Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours sous le soleil de Platon avec Martin Luminet et son EP, Monstre. Je vous entendais rire en écoutant Relsan et son pote dans Bloqué.
Ouais, ça m'a rappelé quelqu'un.
Ouais. tout à l'heure, vous parliez du droit de rebondir, de bifurquer, de changer d'avis. Or, dans le film Les choses de la vie de Claude Sautet qu'on évoquait tout à l'heure, il y a justement Michel Piccoli qui pense qu'il va la quitter et qui ne la quitte pas. En fait, il change d'avis, peut-être parce que sa nuque est tellement jolie. Pourquoi il est si important ce film pour vous?
Alors, c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps, vraiment tout petit. Et je me souviens qu'il m'avait créé des espèces de vapeurs d'émotions justement sur ces plans-là, typiquement sur ces plans. Je pense que c'était la première fois où j'avais peut-être une espèce de, d'éducation à la sensualité par le biais d'une caméra où j'ai trouvé ça très très sensuel. Je me suis dit tiens, et c'est pas du, enfin bref, je trouvais ça d'une beauté affolante quoi. Et puis plus tard en fait, je réentends mais une dizaine d'années. Plus même plus tard, la chanson d'Hélène, comme si je l'avais jamais oubliée. Et oui. C'est juste qu'elle était sortie de ma vie, quoi. Et cette chanson est devenue une obsession après, aussi bien que j'en ai fait un duo avec Laura Kane après.
Est-ce que vous pensez que il y a des choses qu'on a en mémoire comme ça et qui nous déterminent beaucoup plus que ce qu'on a consciemment en mémoire?
Bah, je sais pas si je peux être d'accord avec ça à 100%. En tout cas, j'ai envie de croire à ça. Si quelque chose s'est accroché à nous comme ça, c'est peut-être qu'il y avait la place pour qu'elle se loge à cet endroit-là, que ça constitue notre histoire, que, je sais pas, on est fait de cellules et de choses comme ça qui sont difficiles à décrypter. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être ces espèces de grands mystères qui nous définissent plus que des grandes certitudes, quoi.
J'ai préparé un petit quiz pour vous, pour vous rencontrer un peu autrement. Et vous allez reconnaître la musique, évidemment, qui va nous servir de tapis sonore. C'est évidemment Loser de Beck. Alors, échec ou défaite, Martin Luminet?
Je dois choisir l'un ou l'autre?
Vous avez le choix, vous pouvez faire une synthèse aussi.
Ah, moi,
vous êtes libre.
J'aime bien défaite parce que la défaite répond à une victoire. Quand je pense à un match de foot ou un match de basket, il y a autant de victoires que de défaites par match. Je trouve ça assez poétique.
Oui, vous faites beaucoup de sport d'ailleurs, je crois.
Ouais, moi je trouve ça. Je suis assez inspiré en fait par les gens qui se dépassent physiquement, que ce soit les sportifs, les danseurs, les danseuses. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que je trouve qu'il y a un côté de dépassement de sa condition.
Vous faites quoi comme sport vous?
Moi je suis très basket, très foot.
Basket.
Mais je sais pas, il y a cette espèce de truc aussi. Je trouve le regard de la société sur les sportifs me touche beaucoup. On les regarde un petit peu comme des personnes hors normes, mais à la fois il y a beaucoup de mépris pour ces gens-là. Je trouve ça assez cinglé, quoi. La place d'un sportif au sein d'une société. Ouais. Je trouve ça très beau, très, très touchant, très navrant. Je vois la haine que ça déclenche.
Du coup, on enchaîne sur le quiz. Nadal ou Federer?
Ah, Federer.
Booba ou Orelsan?
Oh, c'est dur ça, les gars. Je vais dire Gringe.
Ah ouais. Un échec qui vous ressemble ou une réussite comme tout le monde?
Non, un échec.
Trop facile, je suis désolé. Ouais. Joie ou bonheur?
Bonheur.
Barbara ou Céline Dion?
Barbara.
Parce que je crois qu'il y avait les deux chez vous, enfant.
Ah, il y avait Céline Dion dans le monospace, ouais, mais Barbara, pour moi, ça a été une rencontre hors norme, ça a été un monument, autant pour ce qu'elle chantait que ce qu'elle dégageait en interview. Quand elle dit « si j'avais pas été chanteuse, j'aurais été bonne sœur ou putain », c'est quelque chose qui, moi, fait beaucoup écho. Je trouve cette espèce de paradoxe hyper violent entre les deux, j'ai ça en moi aussi.
La vie ne vaut rien ou rien ne vaut la vie?
Rien ne vaut la vie, toujours.
Biolay, de Lyon comme vous, ou de l'herbe?
Ah, ça c'est dur aussi, les gars. On va dire Delerme pour le cinéma.
Ouais. Peur ou angoisse?
Peur.
La rage ou le seum?
Ah, la rage, toujours la rage.
Tristesse ou mélancolie?
Alors avant j'étais plus mélancolie et puis je trouve que la mélancolie c'est un truc un peu trop confortable. Je trouve que la tristesse c'est un truc un peu plus radical. Donc tant qu'à faire autant prendre le menu découverte, tristesse à fond.
Merci beaucoup, Martin Luminet.
Merci mille fois.
Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir qui vous parle aujourd'hui dans les chanteurs français ou chanteuses françaises. Est-ce que vous vous sentez proche, par exemple, de Benjamin Biolay, qui vient de Lyon comme vous, qui supporte l'OL? Vous supportez l'OL, vous aussi?
Ouais, j'essaie tant bien que mal, ouais.
Est-ce que vous avez, comme ça, des frères de votre époque qui vous guident, qui vous donnent la force, qui vous montrent que la tristesse peut être belle?
Ouais, il y a des projets comme... Cabazzi, Odezen, qui sont, je trouve, justement, le carburant principal, même Terrier, où je trouve que le carburant principal, c'est vraiment de la rage, de l'envie de s'en sortir en hurlant. Ouais. Et puis, il y a des choses d'une extrême douceur, où moi, je me sens très familier de ce côté ultra doux, quoi, qu'on peut retrouver chez, par exemple, qui c'est qu'on a, que j'aime beaucoup, Loni, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup... un projet comme Horos, qui pour moi a ce côté justement sur le fil. J'aime bien en fait j'aime bien être sur le fil, parce qu'en fait on peut soit tomber de très très haut, soit accrocher vraiment un bout d'étoile, et ça je trouve ça assez réjouissant.
Ouais, être sur le fil, je voudrais justement que vous écoutiez une chanson de Fauve à laquelle j'ai pensé immédiatement la première fois que je vous ai découvert.
J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien. Que tu refasses mes stocks de sérotonine. Que tu me dises que c'est rien. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant. Mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis, et dans la nuit je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va, on vient. On s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens. Je te retiens du bout des doigts pour te ramener contre moi.
Voilà, c'était Fauve, infirmière. Ça vous a apporté, ça vous a influencé?
Moi, ça m'a autorisé, ouais. Ça m'a autorisé ouais. à parler, chanter. Ça m'a autorisé à mettre, à dire qu'on peut chanter aussi avec les dents, quoi.
Ouais,
c'est un truc qui n'est pas nécessairement d'avoir une belle voix, de chanter. Et puis, j'aime bien cette espèce d'idée de pleurer en dansant, moi, qui me fascine.
Vous avez d'ailleurs fait une chanson?
Oui, exactement. Ouais. C'est, moi, c'est vraiment une espèce de leitmotiv. Je pense que si j'ouvrais un supermarché, ça serait vraiment le slogan marqué dessus, quoi.
Vous connaissez la phrase de Nietzsche à ce sujet. Il dit dans La Joie Tragique, il faut apprendre à danser quand on pleure, et finalement on va trouver la seule joie, la joie de celui qui danse au milieu des ruines de son existence. Vous êtes nietzschien?
Je peux pas dire parce que je connais pas assez. J'ai une culture assez. Mais il disait pas que des conneries, en effet.
Alors il y a un mot que vous avez dit qui, à mon avis, enfin je crois, c'est une proposition, résume bien votre situation existentielle. Et je précise, en tout cas, je prends le risque. J'ai l'impression qu'on a la chance de vous rencontrer avant l'explosion, qui, je pense, aura lieu. Donc ça doit être assez bizarre comme situation existentielle. Je suis pas prophète, je suis pas devin, je dis juste mon sentiment. Mais vous avez employé ce mot. En évoquant Fauve, ça m'a autorisé. Et au fond, je pense que dans la vie, on a besoin d'être autorisé par les autres pour se révéler soi-même, pour exprimer son talent. D'ailleurs, les psychologues montrent bien que, par exemple, dans des entreprises, dans des groupes, dans des équipes de sport, en fait, il y a une autorisation qui est donnée à la créativité des individus. Et tout le monde est créatif, mais plein de gens se sentent pas autorisés parce que l'environnement, l'univers global, en fait, ne leur donne pas cette autorisation. Et souvent, dans les vies d'artistes, il y a des révélations comme ça, des autorisations qui sont données tantôt par un parent, tantôt par un père, tantôt par quelqu'un qu'on admire. Donc, moi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de prendre cette confiance, en fait, d'y aller, quoi. Hein, Alain disait, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Voilà, c'est pas de se prendre la tête des heures. Vous avez pris un peu de temps, voilà, mais bon, 30 ans, c'est bon. Alors, je voudrais que vous reveniez comme ça sur ces quelques dernières années, quand vous avez décidé d'y aller, et finalement, que vous vous demandiez ce qui vous a autorisé comme ça. Peut-être dans le champ de l'art, de la musique, ou alors des amis, de la famille. Est-ce que c'est venu comme ça du dehors, en fait?
Ouais, sans doute. En fait, j'ai beaucoup déconstruit les choses. J'ai beaucoup déconstruit la vie qu'on attendait de moi, je pense. Comme je suis pas un tempérament qui raffole du conflit, j'ai jamais réussi à sortir d'une relation en claquant la porte, quoi. J'ai toujours essayé d'expliquer ce qui se jouait en moi pour pouvoir voir s'il pouvait y avoir un chemin de compréhension entre nous. L'autorisation, elle vient par plein de biais. Je pense que déjà la prise de pouvoir sur sa vie est très importante. Il faut ce petit terreau là, il faut ce terreau pour commencer à avancer, pour commencer à se jeter à l'eau. Et puis après, pour moi, la musique, elle, une chanson, elle est pas finie tant qu'elle va pas dans l'oreille de quelqu'un, tant qu'elle rencontre pas quelqu'un, une espèce d'altérité, quoi. Et donc, je me suis aussi autorisé beaucoup via les yeux des autres, les yeux des gens, et puis la façon dont ça a été reçu, de dire, en fait, tout ça n'est pas si monstrueux, tout ça n'est pas si vulgaire de chanter ça, et c'est plein de petits escaliers comme ça d'autorisation qui font que aujourd'hui, je me permets des fois de m'autoriser moi-même certaines choses, et ça me fait un bien fou.
Ouais, donc c'est surtout vous-même. Et alors ça s'appelle Monstre, c'est qui ce monstre?
Ah bah, le monstre, c'est ce qu'on rejette. Je pense que c'est ce qu'on rejette d'un point de vue à cause de notre éducation, à cause de la société aussi. Or, c'est ce qui, pour moi, est le trésor de ce qu'on a en nous, même si ça fait mal, même si c'est quelque chose de brutal, même si c'est quelque chose qu'on, bien sûr, qu'on pourrait, sur lequel on pourrait pas vivre toute la journée sur ce rythme-là, quoi. Mais je sais pas, moi, ce côté monstre, du moment que je l'ai formalisé, du moment que j'ai commencé à le voir pleinement, le regarder en face et avoir cette espèce de deuxième visage, je me suis dit, bon, bah, tiens, en fait, tout ça n'est pas un deuxième visage. En fait, c'est mon visage. C'est un visage qui a deux, qui est ample, quoi.
Dans la mythologie grecque, notamment, le monstre est toujours aussi merveilleux.
Bah, moi, je pense qu'il y a certains monstres peuvent être le héros du film, quoi. Et ça me plaît beaucoup, quoi.
Avant d'essayer de résumer votre philosophie de la vie, c'est un petit exercice que je m'impose à chaque fois. Vous êtes l'enfant de quoi?
Alors, je suis l'enfant de. Je pense d'une grande sensibilité. Je suis l'enfant aussi de gens qui ont cherché la liberté très très fort et qui, au fil des générations, l'ont autorisé à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Et je crois que je suis aussi l'enfant d'une espèce de génération qui a besoin qu'on lui dise, en fait, c'est faux, ce qu'on nous dit qu'il n'y aura pas de guerre à mener, que toutes les conneries ont été faites par les gens avant. Je pense que notre génération a justement de gros enjeux à soulever sur plein de sujets, que ce soit environnemental, social, intime, familial. Et je pense que notre génération se révélera le jour où on lui dira, en fait, si tu as vraiment une responsabilité dans ce monde, et tu n'es pas spectateur, tu es vraiment acteur de tout ça, quoi.
Merci beaucoup, Martin Luminet. Vous êtes en concert dans plein de dates bientôt, je ne peux pas toutes les annoncer, mais les plus proches, le 29 août à Fleurieux, le 19 septembre à Sébaza, le 16 octobre à Passé, le 21 octobre à Riom. Votre philosophie de la vie, c'est une philosophie qu'on a bien entendue comme ça. Vous avez à un moment, vous y êtes allé, comme vous êtes autorisé à exprimer tout ce qu'il y avait en vous. Cette hypersensibilité qui crée le lien, cette manière aussi d'entrer en relation, en résonance avec les autres, de dire voilà, il y a en moi quelque chose qui n'est pas parfait, quelque chose qui ressemble parfois à quelque chose de manqué. Peut-être en cela, vous êtes un véritable animal humain, un animal raté, quelqu'un qui rebondit, qui trébuche, qui bifurque, et à chaque fois, qui fait une belle chanson pour nous rendre sensibles, cette humanité. Merci beaucoup, Martin Luminet. C'était un véritable plaisir de vous écouter. Je recommande encore une fois votre EP Monstre et précisément deux chansons que j'écoute sur mon vélo depuis 15 jours non-stop, Cœur et Monde. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Pauline Laverdure, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h exactement dans la caverne de France Inter sous le soleil de Platon.